Voilà. Bonjour à tous. Shalom. C'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous. Donc, pour me situer un peu plus, je suis le fils de Marie. J'ai donc grandi à Lausanne et mon père est juif. Donc, vous allez souvent m'entendre durant ce message en parlant du peuple juif, parler de mon peuple. Alors, les racines juives de la foi chrétienne sont en fait souvent le thème général de mes messages. J'ai souvent prêché ici aussi sur les fêtes ou sur un point de vue juif d'un passage. Et puis, un ami avec qui on avait d'abord fait des vidéos sur la synagogue et l'église, filiation, séparation et réconciliation, ou divorce-réconciliation, a, de ces vidéos, fait un livre. Et on avait décidé de faire une conférence dans notre église à Versailles, et où j'allais intervenir, et je propose le thème « Les racines juives ». Mais en fait, je me rends compte que, précisément sur les racines, je n'avais pas encore donné de message spécifique là-dessus. Et je prépare quelque chose, et le frère qui allait gérer toute la journée, qui allait être celui qui allait faire la présidence, quand je lui donne un peu les bases, il me dit « Écoute, il faut que tu retravailles ça, ça ne va pas. » Bon. Alors j'ai fait un gros travail, ça a donné une conférence qui a duré 50-55 minutes. Et là, pour vous, j'ai eu le privilège de retravailler pour compacter en une vingtaine de minutes. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose, si c'est le thème de mes messages depuis plusieurs années, nous sommes témoins, missionnaires auprès du peuple juif depuis 2017 à Paris. Le Seigneur a réussi à convaincre ma chère montagnarde qu'on aille à Paris. Bon, on est dans le sud, entouré de forêts, de Paris, ça va. Voilà. Donc, j'ai la joie de partager avec vous ce message pour la deuxième fois dans une version raccourcie. Avec quelques questions qu'on va se poser au mieux. Mais effectivement, pendant des siècles, l'Église en général a oublié ses racines. On a mis l'Église d'un côté, la synagogue de l'autre, deux choses opposées qui n'ont rien à voir. Mais en fait, au sens le plus fort, elles sont de la même famille. Et il y a une image que j'apprécie beaucoup. Un arbre ne voit jamais ses racines. Elles sont invisibles, elles sont sous terre. Et pourtant, d'elles vient toute la sève, toute la force de l'arbre. Et de notre foi chrétienne, notre foi en le Messie, alors Christ est le terme grec, qui vient du grec, Christos, Messie est le terme qui vient de l'hébreu, qui signifie les deux la même chose, celui que l'Éternel a oint. Alors on peut dire qu'il y a oint avec un petit o, les rois, les prophètes, le grand prêtre, et il y a oint avec un grand O, le Machiar, le Messie, celui annoncé dès la Genèse, qui devait permettre aux êtres humains de se réconcilier avec Dieu. Alors, souvent, les racines, on les laisse de côté, le Premier Testament, l'Ancien Testament, on ne le lit pas beaucoup. On est sur le Nouveau Testament, ou dans d'autres termes, testament veut dire aussi alliance, première alliance, nouvelle alliance, ensemble, pas ensemble, c'est un peu ce qu'on va voir. Et j'aimerais qu'on redécouvre ses racines pour mieux en goûter les fruits. Jésus lui-même l'a dit, il n'est pas venu abolir la loi, les prophètes, mais les accomplir. En fait, la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est une seule histoire. C'est des auteurs humains qui ont écrit, mais sous l'inspiration de l'Éternel. Ce qui fait qu'on a une unité, on a un livre, une révélation. Et on va redécouvrir ensemble les racines pour en mieux en goûter les fruits. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Donc, ce matin, on va voir quelques points. D'abord, qui est Israël et c'est quoi l'alliance? Dieu a fait alliance avec qui, avec quoi, comment? Ensuite, on va voir les trois piliers, les trois colonnes de la première alliance. Puis on va étudier au final une question importante. Quelle relation doivent avoir l'Église et Israël? Alors, si on veut mettre d'autres termes, l'Église, c'est nous. C'est tous les disciples dans le monde de Jésus. Et Israël, et on va le voir dans le point suivant, c'est un peuple, des personnes de chair et de sang, dont la moitié de mes ancêtres. Ce n'est pas un concept un peu brumeux, on va le voir. Quelles sont les relations entre les deux aujourd'hui? Israël, un homme, un peuple, un pays. La Bible emploie ce mot dans les trois sens et il est important de bien les distinguer pour éviter les malentendus. Premièrement, c'est un homme. Jacob, fils d'Abraham, petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, revient de 20 ans où il a travaillé pour son oncle. Il est au bord d'un fleuve, le Yabok. Son frère, qui l'a fui 20 ans avant, arrive avec 400 hommes. Et Jacob, il est terrifié. Il a séparé sa famille en deux et il a mis un peu toutes les choses en place. Il est au bord d'un torrent, le Yabok, et toute la nuit, il va lutter avec un être mystérieux, jusqu'au petit matin où l'être lui déboîte la hanche et Jacob lui demande de le bénir. Cet être, il semblerait que ce soit Dieu lui-même. Et il lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, ce sera Israël, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu et qui n'a pas perdu. » Sacré nom pour un peuple, mais pas un peuple qui a tout compris, tout réussi, mais un peuple qui se débat avec son Dieu et qui au matin en sort marqué et surtout béni. Alors aussi, et c'est la majorité des cas, 99%, c'est un peuple. On parle du peuple d'Israël, des gens d'Israël, etc., dans tout le Tanakh. Donc le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. C'est les enfants d'Israël, les tribus, la maison. C'est important. 99% des occurrences dans le Premier Testament, c'est un peuple. Et il faut bien comprendre, Paul, des siècles plus tard, parlera aussi d'Israël. Quand il parle d'Israël, c'est quasi systématiquement du peuple qu'il s'agit. Pas d'un concept, pas d'un pays, pas de Jacob leur ancêtre. Un peuple de chair et de sang. Et puis, on a à peu près 1% des occurrences, c'est le pays, la terre d'Israël. Mais il est important de noter que dès le départ, la terre d'Israël, le pays, n'a pas la vocation d'être replié sur lui-même, mais la vocation de bénir, d'accueillir, y compris l'étranger. On ne le note pas toujours, mais parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui avaient compris que le vrai Dieu est le Dieu d'Israël et avaient choisi d'accompagner leurs anciens esclaves. Et ils ont été, dès le départ, intégrés au peuple d'Israël. Si on doit résumer le Tanakh, le Premier Testament, en une formule, je dirais ceci. Notre Dieu est un Dieu qui fait alliance. Tout au long de l'histoire, il s'engage par sa parole, librement, sans y être forcé. Et surtout, il tient sa parole. Petit détail, si vous vous souvenez, quand Dieu fait alliance avec Abraham, il lui dit de prendre des animaux, de les couper en deux. C'était une manière traditionnelle de faire alliance à l'époque. Et normalement, les deux qui faisaient alliance passaient au milieu des animaux. Sauf que dans ce cas-là, Dieu endort profondément Abraham et c'est lui-même qui passe entre les animaux. Abraham n'a rien pu faire, il dormait. Dieu a fait son alliance et il l'a fait en les choisissant. C'est son choix. Il c'est important de comprendre ce fil, de comprendre cette pensée, parce qu'elle nous mène à l'événement qui a changé toute l'histoire, la croix où notre Seigneur a scellé la nouvelle alliance. Nous avons donc Abraham, 2000 ans avant notre ère. Dieu l'appelle à faire quelque chose de très simple et facile, tout quitter sans savoir où il va aller. Je pense que si on devait lever la main, qui sait qui le ferait ? Je ne suis pas sûr qu'on aurait beaucoup. Honnêtement, je ne suis pas sûr si je l'aurais fait. Quand on a quitté la Suisse, je savais au moins à peu près où j'allais. Mais surtout, il lui fait une triple promesse, une descendance, une terre et une bénédiction. Mais pas une bénédiction toute simple. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Et plus loin de Genèse 18, et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dès Abraham, on n'étend pas simplement au peuple juif, mais à toutes les familles de la terre. Donc, Dieu scelle cette promesse par une alliance perpétuelle avec le signe de la circoncision. Et il y a un refrain qui revient régulièrement, comme dans Genèse 12, 2, « perpétuel ». Dieu ne mesure pas son engagement à nos mérites. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si c'était mes mérites, j'aurais beaucoup de soucis à me faire. C'est ses mérites, c'est lui qui s'engage. Et c'est lui qui s'engage avec Abraham, puis avec Isaac, puis avec Jacob. Et plus loin, quelques siècles plus tard, Abraham. En fait, dans les alliances, on voit que ça élargit. Dieu fait alliance avec Adam, puis avec la famille de Noé, puis avec la famille d'Abraham. Et puis, quelques siècles plus tard, David. Dieu lui promet une dynastie qui ne s'éteindra pas. Une dynastie où ses descendants régneront pour toujours. Comme je vous ai dit avant, un refrain éternel. Alors, si on peut dire qu'il est vrai que pendant un temps, un descendant de David n'a pas régné sur le trône physique de Jérusalem. Le descendant de David trône pour l'éternité. Dieu tient ses promesses. Il dit ceci, en 2 Samuel 7, 13 et 14, « Ce sera ta descendance qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Pour toujours. Et voilà pourquoi le premier verset du Nouveau Testament présente Jésus comme le fils de David. Mashiach ben David, Christ, le Messie, fils de David. D'ailleurs, quand les foules, lors de son arrivée à Jérusalem, crieront ce titre, elles diront une espérance vieille de 1000 ans. 1000 ans d'attente du Messie. Et Dieu nous étonne encore. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà étonné, j'espère. Moi, c'est une des choses que je préfère dans la marche avec le Seigneur, c'est que Dieu a toujours des surprises. Certains le savent, je n'ai grandi sans aucune éducation religieuse, c'était un choix de mon père, et j'ai eu le privilège de faire une découverte de la foi en Jésus en tant que jeune adulte. Je le suis depuis plus de 20 ans, et s'il y a une chose que je peux dire, si ce n'est pas toujours facile, c'est passionnant. Marcher avec Dieu est la chose la plus intéressante à faire. Donc, à travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu annonce une nouvelle alliance. C'est quand même Jérémie à peu près 700 ans avant le Messie. Une alliance qui sera différente de la première, non plus des lois gravées sur des pierres, mais une loi écrite sur nos cœurs. De l'extérieur, on passe à l'intérieur. Et ceux qui ont peut-être étudié la manière dont fonctionne l'être humain, on sait qu'un véritable changement ne peut venir que de l'intérieur vers l'extérieur. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne simplement pas. Notre Créateur connaît le mode d'emploi. Il dit ceci, Jérémie 33-34, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, ils me connaîtront tous, du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et plus loin, il explique comment cette nouvelle alliance pourrait s'arrêter. Tout simplement, si la lune et le soleil arrêtaient leur fonction, ne brillaient plus. En résumé, tant que les lois de la physique continuent, on sait que Dieu tiendra sa promesse. Entre nous soit dit, moi j'aimerais bien voler, ce serait sympa, j'en ai rêvé parfois. Malheureusement, dans notre monde actuel, ce n'est pas le cas. L'alliance tient. Et Jésus, Yeshua, comme on le dit en hébreu, au soir de la Pâque, dans la chambre haute, il prend une coupe, la troisième coupe, la coupe la plus importante, juste après le repas. Et il dit ceci, c'était la coupe du pardon. Les paroles qu'il a prononcées, les oreilles juives ne pouvaient que la reconnaître. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. La présentation de la Pâque est passionnante, mais c'est un autre sujet que j'ai déjà aussi abordé, je crois, ici. Ou pas, je crois. Je crois que j'avais fait une présentation, mais très intéressante. Quelque chose qui est célébré depuis très longtemps. Jésus l'a amené à son apothéose. Il y a une seule et même fidélité qui court d'Abraham jusqu'à Jésus. Le même Dieu patient tient jusqu'au bout ce qu'il a promis. Ce qui veut dire, si Dieu vous a fait des promesses, tenez ferme, il va les réaliser. C'est une question qui est centrale. On parle souvent de l'élection du peuple juif. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il faut écarter quelque chose assez clairement. Être élu, ce n'est pas être le préféré ou le chouchou. L'élection, c'est une mise à part en vue d'un rôle précis. Alors, c'est vrai que dans notre monde occidental, on a peu cette compréhension. Mais l'élection est comme la notion du fils aîné qu'on retrouve dans les traditions du Moyen-Orient et d'Afrique. Le fils aîné n'est pas préféré des parents, mais il a une fonction et des responsabilités spécifiques que n'ont pas les autres frères. Et sa responsabilité est au service de la famille. Israël, c'est le fils aîné parmi les nations. Autre chose aussi qui est très important, l'élection ne signifie pas salut, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas on est juif, on est sauvé. On est juif, on a une première alliance, oui. Mais tout au long de son ministère, Yeshua, Jésus, n'a parlé quasiment qu'à des Juifs. Et il l'a dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le salut ne passe que par le Messie d'Israël et des nations. Et je dirais aussi, être choisi, ce n'est pas être au-dessus des autres, c'est être au service des autres. Et c'était la tâche d'Israël. J'y reviendrai juste après. Alors, élection, pourquoi ? Par mérite ? Par nombre ? Non. Par la grâce de Dieu seul. Et c'est intéressant, quand Dieu s'adresse à Moïse, en Deutéronome 7, 7 et 8, il lui dit, « Je me suis attaché à vous et je vous ai choisi, non pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. » Et il rajoute aussi, « Et non parce que vous êtes meilleur, de loin pas. Je vous ai choisi parce que je vous aime et que je tiens la promesse, le serment que j'ai fait à vos pères. » C'est une grâce. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël ? C'est la même question. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Samuel, Marie ou un autre d'entre vous pour être un de ses enfants, un de ses disciples ? Par grâce. je ne l'ai pas mérité, je ne le mériterai jamais. C'est son choix. La seule chose que je peux faire, personnellement, c'est en être extrêmement reconnaissant. Alors, Israël avait une mission, mis à part pour servir. Israël devait être le vase, l'instrument par lequel Dieu ferait couler sa bénédiction sur toutes les familles de la terre. Vous vous rappelez, Abraham, cette promesse centrale. Une terre, un peuple, oui, mais une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, au Sinaï, Dieu va encore préciser cela dans Exode 19:6, un royaume de prêtres, c'est-à-dire des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'était le rôle d'Israël. Alors, effectivement, on peut dire qu'Israël n'y a souvent pas réussi, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Parmi tous les prix Nobel de la paix, la proportion de personnes juives, de prix Nobel globalement, la proportion de personnes juives est triple par rapport à la proportion de la population mondiale. À travers ces choses, Dieu a effectivement permis que le peuple juif soit une bénédiction pour les nations. Mais surtout, et Ésaïe l'a élargi, le peuple juif a été la bénédiction en faisant naître le Messie. On a été toute la terre, un peuple, une famille, et après on est arrivé à une personne, Jésus de Nazareth, qui devait naître d'Israël et que Dieu a utilisé pour amener le salut au monde entier. La plus grande bénédiction que le peuple juif a offert au monde, c'est Jésus. Pour mieux comprendre cette première alliance, je vous en ai parlé en introduction, trois piliers. Vous connaissez l'image du tabouret. Si vous avez un tabouret qui a deux pieds, ce n'est pas très stable. Un seul, encore moins. Trois, c'est stable. Donc, elle tient sur trois piliers. La loi, le système sacrificiel et surtout la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il faut quand même imaginer ça. Le Dieu trois fois saint, tout-puissant, créateur, veut résider au milieu d'un peuple dont il est dit qu'ils ont la nuque raide, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne tendance à la rébellion et à ne pas être d'accord avec les plans de Dieu et les responsables qu'il a mis en place. Alors, étudions chacun de ces piliers. La loi de l'Éternel. Alors, souvent, on a un peu caricaturé la loi comme un fardeau, comme quelque chose de compliqué. Mais pour Israël, c'était premièrement un cadeau. Un cadre de vie pour l'honorer et l'aimer de tout son cœur. Commandement central, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces règles n'ont pas été données pour rendre la vie pesante, compliquée, mais pour la protéger et surtout pour permettre à Israël d'accomplir sa mission, être une lumière au milieu des nations. Cela passait par le système sacrificiel. On peut poser une question très simple. Comment recevoir le pardon de ses péchés? La réponse de la Bible, que ce soit dans le Tanakh, donc la Torah, la loi, ou le Nouveau Testament, une réponse est très simple, par le sang. Lévitique 17:11. Toute la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. On peut le résumer dans une phrase, et c'est ce que dit Hébreux 9, 22, « Pas de pardon sans effusion de sang. » Il fallait un substitut dans le système de la première alliance, un agneau, un bouc. Sur lui étaient déposés les péchés, on mettait la main sur son front et il était mis à mort. Lui mourait pour que nous vivions. Mais ce système, aussi beau aussi important qu'il était, était limité. On devait refaire encore et encore des sacrifices, car il ne pouvait que couvrir les péchés, non pas les effacer. J'y reviendrai à la fin. Tout ça pourquoi ? Pour que Dieu habite parmi nous, au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est aussi quelque chose qui revient encore et encore. Imaginez quand même le Dieu créateur, le Tout-Puissant, veut que nous soyons son peuple. Le peuple juif dans la première alliance est tous ses enfants, tous ses disciples, de toutes les nations dans la nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à chacun de nous. Je serai ton Dieu et tu seras mon disciple, mon enfant. C'est le cœur de la première alliance. La loi, les sacrifices n'existent que pour ça. Dieu, au mieux de son peuple. Sans ce cadre de sainteté, ça n'aurait pas fonctionné. La sainteté de Dieu aurait détruit son peuple. Ça a failli arriver plusieurs fois, comme dans l'épisode du veau d'or. Mais notre Dieu est lent à la colère, riche en grâce. Et il porte à son peuple, comme à nous aujourd'hui, un amour immense. C'est une des caractéristiques centrales de notre Père, son amour. L'autre caractéristique étant sa sainteté, est l'endroit où ces deux caractéristiques se recoupent parfaitement. C'est à la croix où notre Seigneur a donné sa vie pour nous. Alors, on arrive au dernier point. Comment doit-on interagir ? Quelle doit être la relation entre le peuple juif et les chrétiens ? Malheureusement, pendant des siècles, on a souvent, d'une manière ou d'une autre, parlé d'une théologie qu'on appelle la théologie du remplacement. L'idée est assez simple. Le peuple juif ayant refusé son Messie, les promesses qui restaient à accomplir ont été retirées au peuple juif et transmises à l'Église. Et pour les Juifs, il ne reste qu'à se convertir ou à attendre le jugement. On a souvent, pendant des siècles, eu cette image. L'Église rayonnante, triomphante, couronnée, face à la synagogue, les yeux bandés qui regardent au sol, une lance brisée. Alors ça pose la question, est-ce que les promesses de Dieu à mon peuple juif étaient conditionnelles ? Est-ce qu'elles ont été transférées à l'Église ? Moi, je ne crois pas. Et il est intéressant de noter en Romains 11, le cœur de ce thème des relations entre les disciples de Jésus et le peuple juif se trouve dans Romains 9 à 11. Si on a encore 3 jours, on peut aller en profondeur, mais on va finir dans quelques minutes. Et donc, c'est cette question. Oui, il faut être clair. Est-ce que le peuple juif a trébuché ? La réponse est claire. Paul le dit, Romains 11, 11, « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ?» Et il répond, « Certainement pas. » Et il commence ce chapitre en demandant, « Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Et il répond aussi, « Certainement pas. » Oui, beaucoup de mon peuple a rejeté le Messie, parce qu'il n'était pas le libérateur politique que l'on attendait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Paul le dit, il était juif, pharisien, donc du parti le plus strict du judaïsme, hébreu fils d'hébreu, membre de la tribu de Benjamin. Bon, depuis les temps ont changé, vous dire de quelle tribu je viens, la réponse est qu'on ne sait pas, parce qu'avec 2000 ans d'histoire, les tribus se sont mélangées. Mais il faut être clair, trébucher, ce n'est pas tomber. Si vous faites, j'aime beaucoup le sport, je fais pas mal de trail. Dans un trail, on peut trébucher. Généralement, ça n'apporte pas à conséquence. Par contre, quand on tombe, là, c'est problématique. Généralement, on se fait assez mal. Trébucher, ce n'est pas tomber. Oui, le peuple a trébuché. Et il a été, pendant un temps, éloigné. Il continue, Romains 11. Grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Et plus loin, il dit, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration ? Sinon, le passage de la mort à la vie. Et là, il parle de mort et de vie spirituelle. Alors, la relation doit être dans l'humilité. Il conclut Romains 11 avec une image assez intéressante. L'olivier sauvage et l'olivier cultivé. Quand on fait de l'arboriculture de manière standard, on prend des branches d'un olivier franc, un olivier cultivé, et on les greffe sur l'olivier sauvage pour l'améliorer. Et là, Dieu a fait le contraire. Il a enlevé des branches de l'olivier franc. Les Juifs qui n'ont pas cru dans le Messie, et il a greffé l'olivier sauvage, les non-juifs. Mais il dit quelque chose de clair, restons humbles. Pour nous les Juifs, parce que beaucoup d'entre nous ont refusé le Messie. Mais il dit aussi pour les non-juifs, les disciples de Jésus, s'il a enlevé des branches de l'olivier franc, il peut retirer les branches de l'olivier sauvage. Ne soyons pas orgueilleux. Ce que Dieu a fait est magnifique, que ce soit pour le peuple juif ou pour les non-juifs. C'est uniquement sa grâce. Restons humbles et reconnaissants pour les merveilles que Dieu a faites. Donc dans ce texte, l'olivier, c'est le peuple. Les racines, ce sont les patriarches. Et la sève qui nourrit tout l'arbre, c'est la parole de l'Éternel. Parole faite chair, parole écrite, qui nous nourrit depuis des siècles. Et ne l'oublions pas, elle nous a été transmise par le peuple juif. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas les branches qui portent l'arbre, ce sont les racines qui portent les branches. D'Israël est née l'Église, et non l'inverse. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça change ? Soyons reconnaissants. Rappelez-vous, chaque fois que vous ouvrez la Bible, tous les écrivains étaient juifs. À part Luc, mais comme il était médecin, on ne sait pas. Soyons reconnaissants et aimons. Au cours des siècles, malheureusement, le plus grand persécuteur du peuple juif a été l'Église. Quand, en tant que chrétien, on persécute le peuple juif, on scie tout simplement la branche sur laquelle on est assis. Aimons notre Messie et aimer Jésus, c'est aussi aimer son peuple, prier pour lui et nous réjouir quand un fils ou une fille d'Israël reconnaît le Messie. Et je vais conclure rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? La première et la nouvelle alliance ne s'opposent pas, c'est une continuité. Comme je l'avais déjà dit, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Mais la première alliance est incomplète sans le Messie. Mais tout comme la nouvelle alliance est incomplète. C'est un arbre coupé de ses racines. Un arbre dont on coupe les racines, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Sans les textes du Premier Testament, de la Première Alliance, on ne comprend pas le message de Jésus. Et j'aimerais terminer par un contraste qui est magnifique. Quand Jésus est mort à la croix, la parole nous dit que le voile qui séparait le lieu saint, donc c'est le lieu saint, c'était le temple, il faut comprendre, était un carré où il y avait les cours extérieures, puis au milieu le temple, le lieu saint où seuls pouvaient rentrer les prêtres, et au milieu le lieu très saint qui était séparé par un épais rideau où seul le grand prêtre entrait une fois par année. C'était là où il y avait le coffre de l'Alliance, la présence même de Dieu. Lorsque Jésus est mort, le texte nous dit que le rideau s'est déchiré du, bas, du haut vers le bas en deux, complètement. Qu'est-ce que ça signifie? Hébreux nous dit que c'est que Jésus est entré dans le vrai sanctuaire, celui du ciel, non avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang. Et par là, il a ouvert la présence de Dieu à tous ses disciples, tout le temps. Première alliance, un homme, une fois par année. La nouvelle alliance, tous ses disciples, à chaque instant. Rappelons-nous le privilège que nous avons en tant que disciples de Jésus. La présence même de Dieu nous est ouverte à chaque instant. Et ce sacrifice qu'il a fait ne fait pas que couvrir nos péchés. Il les efface définitivement. Nous avons un immense privilège. Cette grâce nous est faite à tous, juifs et non-juifs, de passer de la mort à la vie par la foi en Jésus, le Christ, le Messie d'Israël et des nations. Restons humbles, reconnaissants, les uns envers les autres et envers ceux et envers celui qui nous a greffés tous sur le même arbre. Éphésiens dit que c'est une famille que Dieu a voulu se créer, juifs et non-juifs, tous les peuples unis. Ne laissons pas des barrières. Et je vais terminer par la bénédiction des prêtres en français. Que l'Éternel, peut-être vous pouvez vous lever, j'aimerais vous bénir pour finir ce message. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, son shalom. Et puissions-nous, juifs et non-juifs, la goûter ensemble dès aujourd'hui et jusqu'au jour où il reviendra. Amen.